Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Les poètes, les romanciers, les philosophes, les sociologues, les artistes ont chanté, raconté, analysé, décrit, célébré, transcendé le sentiment amoureux qui nous anime tous de la naissance à la mort, du premier attachement maternel à la dernière caresse à l'être aimé. Vous et moi possédons une définition personnelle, intime, subjective de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est lui laisser la plus grosse part de pizza, ai-je lu un jour, ou encore l'amour, c'est se donner corps et âme, comme écrivait Alfred de Musset. C'est quoi l'amour? Éternelle question. Et si c'était aussi une histoire de chimie, une combinaison d'interactions entre différentes molécules où entrent en jeu nos gènes, notre histoire personnelle, notre environnement? Et nous évoquerons ce matin l'amour au sens large, l'amour spirituel et charnel, l'attachement entre l'enfant et ses parents, l'attachement à sa famille, à ses amis, à sa tribu, avec comme messager de l'amour l'ocytocine, que l'on surnomme parfois l'hormone de l'attachement. Vous saurez presque tout ce matin de cette chimie un peu singulière. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité de Femme Actuelle, dans votre sac de questions pertinentes.
Oh, le filtre d'amour, l'accouchement, les hommes.
Oui, toujours. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
Alors, une alchimie particulière nous lie depuis plusieurs années.
Hein. Oui, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler paire de ciseaux et uranium.
Oh, ben tiens.
Pour résumer un peu notre relation.
À tout à l'heure dans vos choses presque vues. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Madame la colonelle.
Je suis Josepha.
Je suis Ludovic.
Je suis Josepha.
Je suis Ludovic.
Et moi, je suis Gerbert. Veuillez excuser mon subordonné.
Demain, 5h chez moi pour le thé.
La colonelle.
Cochot. Hé. Hey. Hein? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Je ne sais pas, Judas.
Vous êtes bourré d'électricité statique. Écoutez, tenez, baisez-moi la main.
Hein?
Non, baiser la... C'est un ordre. Allez voir. Un, l'autre. Non, l'autre.
Il n'y a rien.
L'autre.
Il n'y a rien.
Mais alors, c'est mon truc.
Non, Éric Libio, je ne vous baiserai pas la main, hein. Rassurez-vous. Alors, c'est sûr qu'il se passe quelque chose de physico-chimique hein, entre Louis de Funès et Claude Jansac, et pas vraiment entre Louis de Funès et Michel Galabru, dans cet extrait du Gendarme se marie. Bonjour Marcel Hibert.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chimie organique à la faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg, ancien directeur du laboratoire d'innovation thérapeutique, médaille d'argent du CNRS, et vous venez de publier un livre absolument passionnant chez Humaine Science, Ocytocine, mon amour. Bonjour Docteur Emmanuel Lecornet-Socol.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes l'auteur chez Hachette du livre très pratique Et si c'était hormonal. Bonjour Philippe Breneau.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, anthropologue, thérapeute de couple, enseignant à l'Université Paris-Descartes et vous avez publié avec Laetitia Corinne le second volume de l'incroyable histoire du sexe en BD intitulé De l'Afrique à l'Asie et c'est publié aux Arènes. Alors en quelques mots, parce qu'on va largement parler ce matin, Marcel Hibert, qu'est-ce que l'ocytocine ?
Alors l'ocytocine est une hormone qui est fabriquée par le cerveau humain, donc c'est... ce qu'on appelle un petit peptide, c'est-à-dire c'est une molécule qui est constituée de 9 briques et qui est relarguée dans notre cerveau, qui est relarguée dans la totalité du corps à travers la circulation sanguine et qui a un nombre de fonctions assez incroyables que l'on vient de découvrir au cours des 20 dernières années en fait.
Et Emmanuel Lecornet-Socol, qu'est-ce qu'une hormone? Elles sont impliquées dans de multiples processus. Les hormones apparaissent bien souvent comme des forces mystérieuses qui nous gouvernent. Hein.
Alors presque en fait, c'est en fait un système de communication dans le corps. Donc vous avez des organes qui sont spécialisés dans la fabrication des hormones. Il faut imaginer que c'est des petits messagers. Donc on a des messagers électriques dans nos neurones et puis on a des messagers qui vont passer par le sang et ce sont les hormones. Il y en a des tas qui sont connues, les hormones de la thyroïde, les hormones sexuelles, l'hormone de croissance et puis notamment cette fameuse ocytocine.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire vous en tant qu'endocrinologue ?
Alors l'ocytocine, dans le domaine de la médecine, on la connaît essentiellement dans son rôle pour l'accouchement et l'allaitement. Donc l'accouchement parce qu'elle va permettre de déclencher les contractions et même en médecine on utilise de manière mais très très régulière l'ocytocine notamment à la fin de l'accouchement pour éviter les hémorragies des femmes et c'est donc extrêmement important. Ça a sauvé probablement des centaines de milliers de vies dans le monde. Et puis aussi, pendant l'allaitement, alors c'est pas l'hormone qui fait fabriquer le lait. L'hormone qui fait fabriquer le lait, c'est la prolactine. L'ocytocine, elle va stimuler les cellules musculaires du sein, donc elle va permettre d'éjecter le lait.
Alors, on a entendu là le coup de foudre entre Josepha et Cruchot dans Le Gendarme se marie. Quelle est la part de chimie dans le coup de foudre? Quelle est la part hormonale, Marcel Hibert?
Pour être un peu provocant, je dirais que ce n'est que chimie, parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez déjà dit, Ali, mais vous êtes un gros tas de molécules.
Merci.
Moi aussi, nous sommes tous des gros tas de molécules, objectivement. Ce qui retire rien à votre mystère, à votre charme, etc. Et donc, je crois que, on fait toujours ce procès aux chimistes, quand ils parlent de molécules, ça casse un peu l'image. En fait, non. Nous sommes faits de molécules, et donc, par définition, tout ce qui se passe en nous est moléculaire. Donc, bien entendu, ce coup de foudre est moléculaire. Alors c'est extraordinairement complexe, hein. J'aime aucun chimiste n'arrivera à décrypter tout ce qui se passe, hein, loin de là. Mais c'est objectivement moléculaire. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, puisque nous sommes faits de cette matière? Voilà.
Emmanuel Le Cornet-Sokol.
Oui, alors en fait, on peut presque dire qu'on est l'un de nos plus grands influenceurs, eh bien, c'est notre système hormonal. Et donc, nous sommes soumis, effectivement, aux hausses et aux baisses des différentes hormones qui nous composent. Et d'ailleurs, par exemple, il y a même des maladies où on voit des gens devenir complètement irritables dans tous leurs états. Moi, je vois des couples arriver en train de divorcer, et en fait, c'est juste parce que madame ou monsieur a une thyroïde qui fonctionne trop, une hyperthyroïdie. Donc, pour dire que vraiment, on a des choses incroyable qui se passe.
Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal quand le coup de foudre se produit? C'est compliqué, je sais, comme question. Mais...
Là, c'est l'explosion des hormones. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et donc c'est elle qui est essentielle pour permettre à deux personnes de pouvoir créer une relation ensemble. Mais en fait, il n'y a pas que l'ocytocine. C'est probablement l'une des plus importantes. Il y a aussi la dopamine, l'hormone du plaisir, la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et puis, il y a tout un système dans le cerveau qui est activé. Mais c'est vrai que c'est un grand pic qui se passe. Et souvent, on dit que la passion ne dure que quelques temps. C'est parce qu'à un moment, le corps recherche toujours un équilibre. Effectivement, il peut y avoir comme ça cette baisse.
La passion est toujours vive entre nous, hein, Eric Thibiot. Philippe Breneau, vous trépignez.
Non, Ali, moi je suis tout à fait d'accord d'abord avec ce qui vient d'être dit. Je pondérerai un petit peu les propos de Marcel Hibert par rapport à l'ocytocine. C'est la rencontre amoureuse est d'abord une histoire de psychologie, d'affinités psychologiques qui vont se traduire par cet orage dont on vient de parler, cet orage hormonal. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une façon de réduire très souvent à uniquement l'action des hormones. C'est une courroie de transmission, c'est une courroie essentielle qui est, je dirais, très perfide. Et on va le voir, on va parler plus avant, notamment de la sérotonine, qui est, dont l'effet est extraordinaire, mais qui va faire ce décalage entre le coup de foudre avec cette atténuation, je veux même dire cette anesthésie, car l'ocytocine est analgésique, c'est-à-dire qu'on va pas se rendre compte des affects négatifs où ils vont être atténués, et ça va permettre, au contraire, c'est l'hormone du lien, ça c'est son vrai nom, c'est ce qui va ancrer la relation, l'attachement, mais au départ, c'est vrai que c'est toute une chaîne qui est d'ordre psychologique, qui a une courroie de transmission, et que l'on va continuer par de la psychologie, mais qui est atténuée par le jeu de ces hormones.
Marcel Hibert.
Oui, je suis tout à fait d'accord, évidemment, mais reste à voir ce qu'il y a derrière la psychologie. D'où vient cette psychologie? Donc, il est clair qu'aucune molécule, aucun cocktail de molécules, tel qu'on peut les décrire aujourd'hui, ne peut expliquer quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est le fruit de gènes, d'une histoire, d'un environnement, des phénomènes extrêmement complexes qui mobilisent l'intégralité de notre cerveau, et notamment notre mémoire. Et tout ça va faire qu'à un moment donné, on va ressentir une émotion pour l'un ou l'autre. Et l'ocytocine va venir là, effectivement, pour créer son petit lien. Mais ce n'est en aucun cas une cause. Voilà.
Docteur Le Cornet-Sokol.
Oui, alors il y a des expériences chez l'animal très intéressantes sur l'ocytocine, et notamment il y a une espèce de campagnole qui est très particulière, où en fait une certaine espèce en fait va être monogame. Et on a démontré que c'était vraiment l'ocytocine dans cette espèce-là qui était responsable de cette monogamie, parce que quand on enlève la possibilité au rat mâle de fabriquer cette ocytocine, eh bien le lien ne se fait plus. le couple ne se fait plus et même les petits meurent. Alors bien sûr, c'est très spécifique, ce n'est que chez une espèce animale, nous sommes loin de ça chez l'homme, mais c'est très intéressant pour...
Mais Marcel Hibert, ces recherches citées par Emmanuel Le Cornu-Sokol vous fascinent, hein. C'est en 1997, vous êtes à Montréal et vous découvrez donc les travaux des pharmacologues américains Thomas Insel et Sue Carter. En août 1997, Thomas Insel se rend à Montréal pour présenter son étude ocytocine, vasopressine et base neuroendocrine de la formation des couples, hein, ça fait rêver Eric Libio. Donc il est connu, ce Thomas Insel, pour ses travaux sur le comportement maternel chez les rongeurs, et pour vous c'est une révélation.
C'est une révélation parce qu'en fait c'est la première fois qu'on associe clairement une molécule à des comportements parentaux comme ça, ou à de la monogamie. Donc avant, c'est une question que je me posais depuis quelques années, avec l'amour, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, regardant dans la littérature scientifique, sciences dures, évidemment, je parlais sciences dures, biologie, biochimie, chimie, à l'époque, il y avait strictement rien, aucune publication sur ce thème-là. Donc en tant que chimiste, on a besoin d'un petit fil à tirer, on a besoin déjà que une hormone soit identifiée comme étant impliquée quelque part. Et en fait, la révélation là avec cette conférence de Thomas Insel, c'est ce que vient de dire notre collègue, c'était que effectivement pour la première fois avec une molécule, il arrivait à manipuler des comportements extrêmement élaborés. Donc l'origine de ces comportements était certainement très complexe, mais la révélation c'était qu'une molécule, l'ocytocine, ou un antagoniste, c'est-à-dire une molécule qui bloque l'effet de l'ocytocine, permettait d'inverser les comportements, les monogames devenaient polygames, les polygames devenaient monogames. Donc voilà, donc ça c'est une vraie révélation, et pour moi en tant que chimiste, bien enfin il y avait une molécule avec laquelle je pouvais essayer de jouer, pour fournir des outils aux biologistes, pour mieux comprendre ces phénomènes, et puis éventuellement peut-être un jour pour faire des médicaments, et ça, on y viendra plus tard.
Alors je rappelle, hein, ces travaux très importants, hein, l'équipe de Thomas Insel et Sue Carter ont injecté de l'ocytocine directement dans le cerveau des campagnols. Cette injection a favorisé la formation de couples stables et le comportement maternel. En revanche, le blocage de l'ocytocine a eu l'effet inverse. Question d'Éric Libio.
Oui, en fait on peut résumer l'affaire en ocytocine, ocytofait. En gros, voilà. tel que vous plaît.
Mais plus, merci.
Je vous en prie. Plus sérieusement, est-ce que tout ce qui a trait à la culture, ce qu'on voit des parents, l'idée qu'on se fait du physique, de l'amour entre un garçon et une fille, entre deux filles, deux garçons, comment ça fonctionne? Il y a pas ça qui vient avant l'aspect chimique, si je puis dire, toute cette culture.
Il y a tout ça, et tout ça est chimique. Et c'est pas grave.
Ah ouais, donc tout est chimique.
Tout est chimique, voilà. Forcément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas réducteur. Ça n'en est pas moins mystérieux, respectable, noble, magnifique. Vous regardez les étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. Vous regardez la lune, qu'est-ce que c'est? C'est des cailloux. Et ça n'en est pas moins beau, mystérieux, fascinant. Voilà. Donc c'est pareil pour les êtres humains. Nous sommes faits de molécules, ça c'est un constat objectif. Maintenant, on ne comprend absolument pas comment ça marche. Et surtout, quand on va vers des phénomènes complexes, des comportements de plus en plus élaborés, contracter un muscle, on voit bien comment ça marche. Mais effectivement, un coup de foot, ça on voit pas du tout.
Et je vous cite, Marcel Hibert. En toute modestie, vous reconnaissez que jamais les scientifiques n'arriveront à décrypter l'amour, et je vous cite, hein, encore moins à reproduire les mécanismes moléculaires qui amènent un poète à transfigurer et transmettre son sentiment amoureux.
Bien évidemment, je veux dire, c'est le procès qu'on fait toujours aux chimistes. Dès qu'on parle de molécules, qu'on mentionne quelques mécanismes moléculaires, on est taxé de réductionnisme. Or, je pense que mes collègues et moi-même, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que nous ne faisons que tirer un tout petit fil de quelque chose qui est monstrueusement compliqué. Et jamais aucun chimiste n'arrivera, je crois jamais, j'ose dire jamais, jamais aucun chimiste ou biologiste ou transhumaniste ou je ne sais quoi n'arrivera à construire un sentiment amoureux. C'est impossible. Faire plier un bras, oui, c'est facile, un petit courant électrique, et, voilà, ça se fait. Mais dès qu'on rentre dans des choses plus élaborées, on n'y arrivera jamais. Donc, il est clair que là, nous jouons avec quelques molécules qui permettent d'essayer justement de comprendre quelques petits mécanismes, mais jamais nous n'imaginons pouvoir reconstruire un sentiment aussi complexe que ça. Et il n'y a qu'à lire la poésie, il n'y a qu'à réfléchir deux secondes, comme vous le faites. Sans compter qu'il y a effectivement énormément d'influence, la culture, comme vous le disiez, l'éducation. Alors les gènes, c'est une chose, on n'est qu'un petit patrimoine, mais plus le poids de la culture, plus le poids de l'éducation est fort, moins la prédestination, la prédisposition génétique va apparaître.
Ça s'appelle l'épigénétique,
entre autres.
Le docteur Le Cornu-Sokol.
Oui, pour venir aussi à un exemple assez pragmatique, on sait très bien qu'une femme qu'elle allaite qu'elle fasse un allaitement naturel ou bien qu'elle ait un allaitement au biberon, on n'a jamais démontré qu'il y avait une différence d'attachement entre la mère et l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. C'est des mécanismes extrêmement complexes. Par contre, on sait que le fait de caresser son enfant, de tenir son enfant, de le regarder dans les yeux, on sait que ça va favoriser cette sécrétion d'ocytocine. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, dans les services de néonatologie, on encourage les parents, maintenant on permet aussi aux parents de tenir leurs enfants dans les bras, de faire des pots à pots, de les caresser, parce que la caresse va diminuer le stress, va favoriser l'ocytocine, qui est aussi une hormone qui va diminuer les hormones du stress. Et donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont assez vertueux.
Et on reviendra sur ces mécanismes tout à l'heure. Philippe Brenneau.
Oui, j'allais réagir. Quand j'entends tout est chimique, je dis d'abord, je réagis spontanément. Oh non, mais bien sûr que tout est chimique. Par exemple, je suis en train de vous parler. C'est évident que des réseaux neuronaux sont en marche, que ça se déverse de tous les côtés. Ça ne peut être que chimique parce que ce n'est qu'une courroie de transmission. Par contre, c'est pas pour le réduire. Par contre, dans le choc amoureux, c'est dans ce dont on parlait. Le choc qui est sur le modèle de l'empreinte de la mère au bébé, on va en parler et je suis tout à fait d'accord. J'utilise moi-même beaucoup la réactivation du soin comme le soin aux enfants dans les thérapies de couple par rapport au massage, aux soins proches, aux caresses. C'est évident qu'on va utiliser toutes les données que l'on sait aujourd'hui. Mais je veux dire, dans la rencontre amoureuse, qui est l'objet un petit peu de ce qu'on dit aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène très particulier de ces décharges d'ocytocine qui ne se passent pas de la même façon lors de cette rencontre, qui vont avoir des effets tout à fait extraordinaires, notamment d'atténuation des affects négatifs, d'amplification du vécu positif, ce qui va faire qu'ensuite on va être dans un décalage quelques mois plus tard, lorsque le cortex sera devenu un petit peu plus calme et qu'il y aura moins d'ocytocine, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus la personne rencontrée. C'est-à-dire que cette hormone du lien favorise l'attachement, mais ensuite, la grande difficulté, c'est qu'on va être attaché, alors qu'on se rend compte, eh bien, qu'on avait atténué la perception, et quelquefois, on a des difficultés à le vivre.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, je rebondis sur ce que dit Philippe Brenneau. Est-ce que finalement cette hormone, à la différence d'autres, hein, on pense aux poussées de croissance des adolescents, au flux, reflux des hormones à certains âges, notamment dans la vie des femmes, est-ce que l'ocytocine, pour ce gros tas de molécules que je suis, elle agit de manière continue, elle est tapie, elle est toujours là, et elle va effectivement avoir, elle aussi, des pics ou pas?
Alors non, elle n'est pas continue. Hein. C'est pas je me lève le matin et quoi qu'il se passe du début de ma vie à la fin. Alors déjà, elle a une sécrétion particulière. Elle est ce qu'on appelle pulsatile. Donc c'est des petits. Ça veut dire qu'elle va venir par petits à-coups. Hop, comme une petite courbe. Et puis en fait, plus cette pulsatilité, donc ces petits à-coups vont augmenter, plus les taux vont être importants et plus le phénomène est amplifié. Et donc on voit par exemple dans les accouchements, typiquement là, il y a des taux d'ocytocine incroyable. Et donc, je vous rappelle que l'ocytocine, l'accouchement, c'est l'un des moments les plus douloureux, l'une des douleurs les plus horribles qu'une femme peut vivre. Et pourtant, l'hormone qui est fabriquée, c'est l'hormone de l'attachement. Comme quoi, il y a un grand, grand mystère. Et je veux bien qu'on soit chimique, mais la nature était un peu particulière.
Marcel Hibert.
L'ocytocine, effectivement, provoque ces contractions. Ça doit être terriblement douloureux. C'est terriblement douloureux pour la femme, ça doit l'être aussi pour l'enfant. Sans compter parfois le manque d'oxygène, enfin vous en parleriez mieux que moi.
L'hypoxie.
Et donc l'ocytocine est là pour justement atténuer tout ça. Et ça, c'était assez clairement démontré chez l'animal. Alors chez le bébé, c'est un peu plus dur, mais chez l'animal, c'est très très clair. Et donc justement, le fait qu'il y ait ces décharges d'oxytocine, c'est peut-être ça aussi qui crée le lien. C'est-à-dire, il y a une telle concentration d'oxytocine à ce moment-là entre la mère et l'enfant, ça vient vraiment sceller la relation.
Alors, vous vous intéressez aux flèches moléculaires de Cupidon, Marcel Hibert, l'ocytocine, mais aussi la vasopressine. Faut pas l'oublier, cette bonne vieille vasopressine.
Alors là, oui, si.
Expliquez-nous ce qu'est la vasopressine.
Alors, c'est un cousin germain. Elle ne diffère que c'est une molécule qui est très très proche. Elles sont fabriquées dans la même glande. Elles ne diffèrent que par deux acides aminés, mais elles ont des actions quand même assez significativement différentes. Et là aussi, on souvent simplifie en parlant d'attachement, d'hormones, etc., de monogamie, polygamie. En fait, les récepteurs de la vasopressine, notamment le récepteur dit V1A, voilà, ils ont des petits noms, eh bien, ces récepteurs contribue aussi énormément à tous ces attachements, cette monogamie. Et on voit aussi des différences de genre. C'est-à-dire, parfois, pour certains comportements, c'est l'ocytocine qui est en action chez la femme, et c'est plutôt la vasopressine à travers ses récepteurs V1A qui est en action chez l'homme. Il y a des belles expériences qui ont été faites chez la souris, par exemple. On arrive à transférer le gène de petits campagnols monogames à des souris qui sont notoirement infidèles, et ces souris deviennent monogames. Et ça, c'est le récepteur de la vasopressine.
Je ne dirai rien.
Vous sentez l'action de la vasopressine en ce moment?
Et voilà.
C'est une sorte de thérapie génique. C'est terriblement, c'est incroyable. Nous-mêmes, nous assistons en spectateur à ça. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire de voir que simplement, en transférant un gène, on arrive à transférer cette capacité à être bon parent ou être monogame chez l'animal. Je parle bien de l'animal. Pour l'instant, ça n'est démontré que chez l'animal.
Allez, dans quelques instants, nous remonterons le temps au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Et on s'intéressera au rôle très important de l'ocytocine dans la construction d'attachements mère-enfant. En attendant, on écoute, et ça va faire plaisir à Marie-Laure Sunshine, les Supremes. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for a feeling that's so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your arms. Then suddenly, souvenir, Marie-Laure Sunshine, les Supremes, I Hear a Symphony.
Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Grand bien vous fasse.
Pas envie.
Viens.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la chimie de l'amour, code projecteur sur l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. On l'a dit tout à l'heure, on a rappelé le rôle de l'ocytocine qui contribue à induire les contractions à l'accouchement. Les concentrations en ocytocine sont maximales au moment de l'accouchement. Il faut noter qu'en France, on administre de l'ocytocine pendant le travail dans environ 2/3 des accouchements. Docteur Emmanuel Le Cornet-Socol, je rappelle que vous êtes endocrinologue.
Oui, exactement. Donc, alors, soit on utilise l'ocytocine pour déclencher les contractions. Alors là, on ne l'utilise que si c'est vraiment nécessaire, parce qu'effectivement, il peut y avoir des impacts. Par contre, au moment, ce qu'on appelle de la délivrance, donc c'est-à-dire une fois que le bébé est sorti et quand on le placenta sort, là, c'est très très fréquent parce que ça diminue le risque d'hémorragie du postpartum et donc ça sauve des vies.
Marcel Hibert, professeur à la faculté de pharmacie à l'Université de Strasbourg et auteur d'Ocytocine, mon amour. Outre son activité sur la contraction de l'utérus, quelles sont les autres fonctions de l'ocytocine pendant l'accouchement ?
Ma collègue en parlerait peut-être mieux que moi, mais il y a ce que l'on a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire ça a l'air de protéger le bébé contre la douleur, ça le protège du manque d'oxygène. Ça vient sceller, donc il y a tout l'aspect relationnel, ça vient créer ce lien entre la mère et l'enfant. Il y a toute une série d'autres fonctions que l'on est en train de découvrir, c'est notamment l'importance des effets anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'il y a un effet anti-inflammatoire qui est extrêmement fort. Lorsque le bébé naît, eh bien, de ce coup, il se met à respirer, il est en contact avec le milieu externe, les microbes, etc., son microbiote commence à s'installer. Et donc, en fait, c'est extrêmement agressif pour lui. Et l'ocytocine a l'air de jouer un rôle protecteur. Chez l'animal, c'est assez clair. Chez l'homme, à ma connaissance, ça n'a pas encore été étudié, mais c'est certainement quelque chose qu'il faudrait regarder de près.
Allez, je vous propose d'écouter le psychopédagogue Bruno Humbeck. C'était dans Grand Main vous fasse le 5 mai 2019.
Il faut bien comprendre que l'attachement, c'est un mécanisme vital. C'est pas un hasard si les bébés sont mignons. Hein. La nature ne fait rien par hasard, d'ailleurs. Les bébés sont mignons parce qu'ils doivent stimuler l'attention de quelqu'un qui va leur accorder des soins. Et donc, forcément, sinon, ils ne survivraient pas. Et donc, ils ont ce mécanisme inné en eux qui est d'attirer. D'ailleurs, les enfants, plus ils ont besoin de soins, plus ils vont être mignons. On le sait, ça existe d'ailleurs chez le gorille aussi. Si vous avez des yeux très ronds, des oreilles détachées, vous arrivez bien, un enfant Mickey, hein, par exemple, celui-là va attirer l'attachement, va stimuler l'attachement et attirer les soins, et des soins de qualité. On le voit par exemple que plus un enfant a besoin de soins de qualité, par exemple les petits-enfants atteints de trisomie 21, ont des mécanismes qui stimulent un attachement, y compris chez le gorille, hein, puisque la trisomie existe chez lui aussi, de meilleure qualité.
Alors quel est le rôle de l'ocytocine dans l'attachement, dans ce que vient de raconter Bruno Humbeck, Marcel Hibert ?
Alors je ne suis pas spécialement compétent dans cette matière-là. Donc l'attachement peut aller, donc effectivement mère-enfant à la naissance, mais on peut, quelque chose qui m'a frappé, par exemple, l'ocytocine joue un rôle dans l'attachement entre le chien et son maître. Donc on est passé à quelque chose d'autre. Mais par le regard, simplement, l'ocytocine augmente la capacité à décrypter les émotions dans un regard et à générer de l'empathie. Et par exemple, le chien a appris à nous regarder pour nous apitoyer, pour qu'on aille vers lui et qu'on aille donner à manger. Et lorsque le chien a ce comportement, bah, l'ocytocine monte chez le chien, mais elle monte chez l'homme. Comme on peut retrouver la trace dans les urines. Le loup ne le fait pas. Donc les animaux domestiques ont cette capacité quelque part à faire ressentir leurs besoins à l'homme par le biais d'une empathie qui passe par le regard.
Docteur Le Cornet-Socol, sur le rôle de l'ocytocine dans ce processus d'attachement, je rappelle ce que nous dit le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby sur l'attachement. On peut définir l'attachement comme une stratégie utilisée par un enfant pour obtenir confort et sécurité.
Oui, n'oublions pas que le nouveau-né humain, c'est le nouveau-né dans la nature le plus fragile. Donc il a fallu que la nature, elle trouve quelque chose pour pouvoir justement faire que ces nouveau-nés puissent grandir et devenir adultes. Et l'ocytocine est un des moyens que la nature a utilisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le jeu des regards, des caresses, du toucher, eh bien, les niveaux d'ocytocine vont monter petit à petit chez chacun des deux individus, la mère, l'enfant, l'homme, la femme, enfin, ou deux partenaires. Et donc, après, ces choses vont pouvoir être ancrées. Donc, ça va ancrer les réseaux neuronaux qui font qu'on a de la satisfaction, qu'on a du plaisir à être ensemble, à se tenir la main ensemble.
Beaucoup de questions sur le pot à pot entre le nouveau-né et la mère. Les caresses, vous l'avez dit, le pot à pot augmente le taux d'ocytocine chez le bébé. bébé et chez la mère.
Voilà, enfin, en tout cas, on pense que c'est l'une des explications pour dire que c'est important, effectivement, que les caresses se fassent, que le toucher se fasse, en particulier chez des nouveau-nés qui sont à l'hôpital, dans des couveuses, donc dans des conditions très, très stressantes.
Philippe Breneau, anthropologue et psychiatre.
Oui, je trouve que c'est très passionnant et bien connu maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, sur cet ancrage à la naissance. L'empreinte, les éthologues l'ont bien montré, l'empreinte à l'objet le plus fréquent, qui en général est la mère, et des parallèles que toute l'éthologie a fait avec la rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que se réouvre le mécanisme qui se passe dans l'enfance, avec au centre de cela l'ocytocine, oui, qui va créer du lien. C'est-à-dire qu'il y a un orage, vous avez en partie parlé tout à l'heure, cet orage du coup de foudre, d'un moment extraordinaire où toutes les hormones du cerveau vont être... C'est-à-dire le cerveau est en hyperactivité, et cette hormone du lien qui va, vous venez de le préciser à l'instant en parlant du bébé et de sa mère, être favorisée par le pot à pot. C'est-à-dire, ça a été montré en détail combien l'ocytocine le favorise, mais on a bien montré combien le fait des caresses, le fait du contact peau à peau, augmente l'ocytocine circulante. Et on voit de quelle façon nous l'utilisons beaucoup, d'ailleurs, dans le renforcement du couple, dans le renforcement de l'amour qui vacille dans le couple. Eh bien, combien les caresses, combien les massages, le peau à peau, va faciliter cela. Il n'y a qu'à voir que le moment de la rencontre amoureuse, vous savez, les amoureux disent, pendant 8 jours, on ne s'est pas lâché d'une minute, on se tenait. Hein, le contact peau à peau existe aussi au niveau du moment amoureux.
Docteur Lecornet-Sokol.
Et d'ailleurs, avec cette période de Covid-19 et de la nécessité des gestes barrières, on a observé, notamment dans les EHPAD, où vous vous souvenez, hein, ils ont été fermés pendant de nombreux mois aux familles, malgré le téléphone, malgré l'utilisation des tablettes, et ben le fait de ne pas pouvoir toucher son proche, de ne pas pouvoir se serrer dans les bras, ça a eu un impact très important. Et on peut se poser la question, est-ce que, effectivement, des espèces de déficits en ocytocine pourraient être en lien? Alors, c'est une explication peut-être un peu facile, mais en tout cas, c'est vraiment pour insister sur le fait de se toucher, d'être en contact les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est important, en fait, pour nous.
Alors, on voit l'importance de l'ocytocine dans la prime enfance, mais de quelle façon l'ocytocine est-elle impliquée dans la relation amoureuse chez l'adolescent et chez l'adulte, Marcel Hibert?
Moi, je dirais que c'est presque un effet mémoire, donc comme on vient de l'évoquer, c'est-à-dire l'ocytocine crée ce lien dans les premiers jours de la vie. C'est une période extrêmement importante, parce qu'il y a une grande perméabilité du cerveau, une grande sensibilité, et donc il y a cette ocytocine est là, en fait, j'ai l'impression qu'elle associe du plaisir à des événements qui sont utiles à l'enfant. Donc ça associe toute une série de choses. Par exemple, l'enfant a du plaisir à téter sa mère. Il ne sait pas qu'il reçoit l'ocytocine dans le lait de sa mère, en fait. Mais à ces moments de plaisir fabuleux, il ne sait pas si c'est l'odeur de sa mère, la douceur de la robe de chambre de sa mère, la musique qu'écoute de sa mère, etc. Et donc tout ça se grave comme un tout, comme une drogue, en fait. Tout ça vient se graver dans l'esprit du nourrisson comme des moments de plaisir. Et effectivement, comme il vient de le dire, tout au long de sa vie, chaque fois que peut-être il va recroiser un parfum, chaque fois qu'il va recroiser une sensation qui finalement est similaire à celle qu'il avait associée dans sa première enfance à du plaisir, eh bien il sera tenté de reproduire l'expérience. Et il y a une légende qui traîne, j'ai pas réussi à trouver de démonstration, mais comme quoi la première épouse d'un homme aurait des points communs avec la mère, c'est-à-dire au niveau des physiques, au niveau peut-être du parfum. Bon voilà, ça c'est une légende urbaine.
Appelez-nous au 0145.
J'en ai pas trouvé de preuve scientifique
pour témoigner. Quel est le rôle du regard, de la parole, du toucher, du baiser dans la phase de séduction? Enfin, quel est le rôle de l'ocytocine à ce moment-là? Est-ce que le fait de regarder quelqu'un qui nous plaît, il y a une montée d'ocytocine? Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe au moment de ce moment de séduction.
Alors déjà, je pense que c'est une énorme tempête hormonale.
Bien sûr.
Ça mobilise la mémoire, comme on l'a dit, ça mobilise énormément de choses. Mais en tout cas, si on regarde juste le petit bout de la lorgnette, l'oxytocine, bah les collègues ont regardé, effectivement, à partir du moment où il y a un regard empathique entre deux personnes, bah l'oxytocine monte en parallèle chez chacun des deux. À partir du moment où ils commencent à se toucher, il y a du peau à peau, bah ça monte encore un petit cran au-dessus. Après, quand on passe au baiser, alors le baiser sur la bouche, c'est quelque chose qui vraiment fait exploser l'oxytocine.
Ah oui, j'imagine.
Et encore plus que ça, bien sûr, l'orgasme. Il y a des décharges d'oxytocine au moment de l'orgasme. Donc l'idée, c'est que cette oxytocine vient toujours faire le lien entre un événement et puis quelque part du plaisir. Et ça vient comme ça aider à le mémoriser, à le graver, tant que ça va dans le sens de la reproduction et la survie de l'espèce.
C'est une sorte de cupidon hormonal, on l'a dit tout à l'heure. Bonjour Charline, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de New York. Quel est votre point de vue sur notre sujet du jour? Êtes-vous sensible à cette chimie de l'amour?
Oui, cette chimie que moi j'appelle l'alchimie, en fait, par expérience, qui m'est vraiment arrivé de constater qu'il m'a semblé tomber amoureuse avant même de connaître le prénom de la personne en face de moi, que c'était vraiment quelque chose de chimique. Et je le vois bien à l'heure des réseaux sociaux, où on apprend à faire connaissance et on peut avoir énormément d'atomes crochus à distance. Quand on se rencontre, la chimie, elle se fait ou elle se fait pas. Quoi. Voilà.
Non, c'est très très intéressant.
C'est bien de parler d'atomes crochus. Vous voyez,
ouais.
Dans le langage populaire, finalement, on avait déjà fait le lien avec la chimie.
Docteur Lecornet-Sokol.
Oui, en fait, il faut pas oublier que l'ocytocine, elle est liée surtout à l'hormone du plaisir, à la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui nous rend, entre guillemets, addict. Hein. C'est très, très résumé ce que je fais, mais vous savez, quand on dit souvent « je suis accro à mon écran, je suis accro à telle substance », en fait, c'est que votre cerveau, il va fabriquer de la dopamine. Et en fait, l'ocytocine, elle stimule cette dopamine. Donc à chaque fois, hop, un peu d'ocytocine, paf, de la dopamine. Donc hop, je recommence, j'en ai envie. Et du coup, c'est en plus un cercle vertueux.
Philippe Breneau, sur l'alchimie décrite par Charline.
Oui, je suis. Bien sûr, elle le constate en tant que utilisatrice, j'allais dire, du moment amoureux. Et c'est très bien ce qui vient d'être expliqué, que l'ocytocine est une courroie de transmission, mais est présente à toutes les étapes de la rencontre, surtout de l'entretien. Moi, je dirais de l'entretien de la relation. Et on voit comment. Dans les couples qui s'éloignent un petit peu, qui ont des difficultés, on voit très vite qu'ils ne se touchent plus, qu'ils ne s'embrassent plus. Le baiser profond, par exemple, le baiser pénétrant, disparaît bien avant que le coït disparaisse dans un couple qui va s'éloigner. Et on voit de quelle façon, c'est très bien montré là, par les travaux qui ont été faits, qui montrent les décharges ou l'entretien de la relation par l'ocytocine. Je pense qu'il y a des moyens. Alors on essaie de le faire dans les thérapies d'accompagnement, justement de permettre de renforcer tout un tas de comportements. C'est-à-dire c'est le baiser, c'est les caresses. C'est-à-dire qui sont, et tout pour tous les auditeurs, essayez dans votre couple en difficulté d'en revenir à des choses très simples, ce qu'on disait tout à l'heure, le contact peau à peau, se toucher fréquent et permanent, ça c'est très générateur d'apaisement, parce que tout simplement ça va gommer un petit peu toute l'agressivité, des choses qui sont un petit peu logiques au long cours dans un couple.
Merci beaucoup Charline de nous avoir appelé. Marcel Hibert, rassurez-nous, la pilule de l'amour à base d'ocytocine, c'est pas pour demain.
Alors, le problème, c'est que ça existe déjà, mais c'est de l'arnaque.
Ah,
donc,
voilà.
Surtout pas acheter de l'oxytocine sur Internet, ouais. Ça sert vraiment à rien. Non, ça ne peut pas marcher, parce qu'en fait, l'oxytocine, par voie orale, est immédiatement décomposée, coupée en morceaux par l'organisme. Donc, sa durée de vie, c'est de 1 ou 2 minutes, donc il y a peu de chances qu'elle survive dans votre corps. Et en plus...
Il peut se passer des choses en 1 ou 2 minutes, vous
oui,
savez.
Oui, peut-être. Mais en plus, il faut qu'elle arrive à monter dans le cerveau, et ça, c'est encore une autre barrière. Donc, voilà, donc...
Il est temps, vous savez quoi ? Il est temps d'écouter le sorcier de l'amour, Éric Libiot, et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi ? T'es médecin ? Psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
C'est sûr, il n'est pas psychothérapeute.
Hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Et tant mieux pour la médecine. Permettez-moi, Ali, que je raconte un petit peu les coulisses de cette émission.
Ouh là là.
Mais ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas tout. Il y a peut-être des jeunes enfants qui nous écoutent. Alors derrière le bureau d'Ali, il y a un grand panneau sur lequel sont inscrits les sujets des prochaines émissions. Sujet dont je prends connaissance au moment du débriefing, de 11h à la fin de l'émission. Tout à l'heure, par exemple, je verrai quel est le sujet que je devrais traiter dans 15 jours. Et donc, il y a 15 jours, je m'informais du sujet d'aujourd'hui et je lis sur le grand tableau. Alors, je suis toujours un petit peu loin du tableau, je suis un peu au fond de la classe. Pourquoi l'amour est aussi une affaire de Shifumi ? Alors, je me dis, tiens, c'est original comme sujet, mais je ne fais aucune remarque, parce que bon, faire des remarques à Ali, ça n'est pas plus. Donc, l'amour est une affaire de Shifumi. C'est nouveau, mais pourquoi pas ? Moi, j'ai parfois du mal un petit peu à suivre les nouveautés. Et je m'imagine deux personnes jouant en Shifumi, mais avec une nouvelle règle. Au lieu que l'une des deux personnes gagne sur l'autre avec une feuille ou une paire de ciseaux, eh bien, si deux personnes sortent trois fois le même objet en cinq tentatives, ils sont faits pour être ensemble et l'amour peut naître entre eux. Après tout, il y a des applications plus ridicules. L'amour, effectivement, peut donc être une affaire de Shifumi. Bon, enfin, de là à en faire une émission quand même. Alors, après avoir tourné autour du puits pendant un petit moment pour trouver quelque chose d'autre à dire, j'ai relu plus attentivement le sujet. Et là, je me suis rendu compte, c'était pourquoi l'amour est aussi affaire de chimie. Ah bah oui, là, je comprends mieux, entre Shifumi et chimie, il y avait un fou de trop. Alors moi, en cours de chimie, je me souviens du bec benzène, de la paillasse et du tube à essai. Et je me souviens aussi du tableau périodique des éléments chimiques, où le nom de chaque élément est réduit à une lettre ou deux, H hydrogène, C carbone, W tungstène, tout ça est logique. Alors ça fait un peu tableau des lettres du Scrabble, et du coup, je regarde... Où peut se trouver le mot amour ? Et où est-ce qu'on peut former le mot amour ? Eh bien, on forme le mot amour avec AR, l'argon, U, uranium, et MO, mobilden, pardon pour la prononciation, je suis pas très chimiste en ce moment. Donc voilà, A-R-U-M-O, amour. J'imagine donc que l'amour est un mélange de ces trois éléments, et je détaille, l'argon fait partie du groupe des gaz nobles, c'est un des gaz de l'atmosphère dont l'étymologie vient de paresseux, parce que c'est un gaz inerte. L'uranium, c'est un métal lourd radioactif, source de grande chaleur. Il s'enflamme spontanément. Il est dangereux à haute dose. Et quand il est usé, il devient déchet. On ne sait pas trop quoi en faire. La solution est de l'enterrer très profondément. Mais peut-être n'est-il jamais totalement mort. Et le molybdène, lui, est un élément chimique numéro 42, comme l'était du même nom. C'est un métal, c'est une allusion cinématographique, je vois que vous suivez, Ali. C'est un métal de transition. Il possède un haut module d'élasticité. Il est employé en alliage, l'addition d'une faible quantité de molybdène durcit l'acier. Donc si je résume, l'amour peut rendre totalement inerte, mais il est aussi source de chaleur car il s'enflamme spontanément. Il se croise toute l'année, mais l'été est la période la plus profitable. Il peut être très élastique et prendre en compte n'importe quelle combinaison, mais il rend aussi les alliages, voire les alliances, très dures. Et quand ça dure, on pourrait parler d'amour fou. Ah bah tiens, le revoilà, ce mot fou qui fait passer de chimie à Shifumi. Conclusion. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme dirait Antoine Lavoisier, qui, comme chacun sait, était chimiste.
Qu'est-ce qu'il est beau, cet Éric Thibault. Je suis persuadé, Marcel Hibert, que vous ne regarderez plus le tableau périodique de Mendeleïev avec le même regard.
Grâce à emprunter son texte.
Exactement. Et vous pouvez podcaster et partager la chronique d'Éric Thibault sur l'appli France Inter.
Je pars et je quitte la maison et je laisse. C'était La Femme, Nouvelle-Orléans.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la chimie de l'amour, coup de projecteur sur l'ocytocine, l'hormone de l'attachement.
Sur l'amour, le discours de Socrate de Diotime n'empêche pas de tomber amoureux. Autrement dit, la vie continue, bien sûr. Mais la philosophie est là pour nous aider à comprendre un peu mieux ce que nous vivons, pour être un peu moins dupes de nos illusions, et puis surtout pour essayer de durer. Parce qu'au fond, la grande affaire dans l'amour, c'est pas la passion des premiers jours. C'est facile de tomber amoureux. N'importe quel gamin de 15 ou 16 ans est capable de tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Ce qui est difficile, c'est de durer. Vous savez ce que Paul Éluard appelait si merveilleusement le dur désir de durer. C'est-à-dire le couple, alors marié ou pas, peu m'importe, exclusif ou pas, peu m'importe. Je suis pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Ce que je crois pouvoir constater, c'est qu'il y a en nous un dur désir de durer, un désir d'aimer, un désir d'être aimé, mais si possible dans la durée.
Le philosophe André Comte-Sponville dans Les Racines du Ciel sur France Culture en 2012. Marcel Hibert, la durée de l'amour est-elle liée au taux d'ocytocine ?
Alors déjà, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est quand on parle d'amour, de quoi on parle ?
Ouais.
C'est-à-dire, on aime sa femme, on aime ses enfants, on aime France Inter, etc. Voilà. Donc, et justement, Comte-Sponville avait joliment résumé ça, la pensée des philosophes avant lui, en distinguant Eros, Philia et Agapé. Donc Eros, c'est vraiment le coup de foudre amoureux, c'est l'amour passionné, romantique, comme le disent les Britanniques. Et Philia, c'est l'amitié, c'est l'attachement dans la durée, justement, pour répondre à votre question. Et Agapé serait quelque chose de plus rare, c'est l'amour universel de son prochain, etc. Donc, en fait, l'ocytocine, alors, au départ, justement, dans notre projet, on pensait que ça correspondait à trois comportements radicalement différents. Et donc, derrière ces trois comportements, il devait y avoir des mécanismes moléculaires radicalement différents. Or, au bout du compte, on se rend compte que l'ocytocine est derrière les trois. C'est-à-dire qu'on retrouve que l'ocytocine est là au moment du coup de foudre. Elle est surtout là, effectivement, pour maintenir l'attachement dans la durée. Donc, l'amitié, etc. L'amour pour ses enfants, qui dure, évidemment. Et puis, c'est aussi là pour l'amour universel de son prochain, puisqu'on a même trouvé qu'il y avait des prédispositions génétiques à être altruiste et à s'impliquer dans des associations caritatives. Donc, voilà, l'ocytocine est là, effectivement. Et je dirais que, à un moment donné, tout démarre avec Eros. Et après, il faut être capable de transformer Eros en Philia aussi longtemps que possible. Et l'ocytocine vient aider.
Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, je rebondis sur ce que disait le docteur Lecornet-Sokol tout à l'heure. L'attachement, vous parliez de la mère et de l'enfant, du père et de l'enfant, du pot à pot, c'est quand même assez récent. Une génération de parents, aujourd'hui qu'un cas ou au-delà, n'ont absolument pas connu ça. Autrement dit, est-ce que ces enfants qui ont été nourris avec ça, qui ont véritablement eu cet échange avec leurs deux parents, font aujourd'hui des jeunes gens, des adultes, amoureux, différemment, plus longuement que nous-mêmes ou nos aînés ? Alors c'est tout l'enjeu et les études sont encore en cours. Il n'y a pas d'études. Ce qu'on sait, c'est que à l'instant T, donc au moment en fait où les soins sont, enfin où les enfants sont hospitalisés, où les soins sont prodigués, il y a moins de stress, même certaines complications qui peuvent diminuer du fait comme ça que les enfants sont un pot à pot, que ce soit avec la maman ou avec le papa d'ailleurs. Il n'y a pas forcément d'unique sens vers la maman. Et donc ce qui serait très intéressant, c'est de voir, oui, à long terme. Que deviennent ?
Philippe Breneau ?
Oui, dans cette histoire-là, Comte Sponville a complètement raison. La grande question que tout le monde se pose, c'est comment faire durer. Il y a eu un choc amoureux, on a été psychologiquement attaché. La grande difficulté, c'est de réactiver l'amour, et pour réactiver l'amour, c'est sûrement le contact, sûrement que l'ocytocine y est pour quelque chose, il faut la mettre en jeu, il faut se toucher, il faut s'embrasser.
Tiens, je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Claire de Paris.
Bonjour, je m'appelle Claire. Je voulais savoir si on était égaux face au dosage d'hormones dans le corps et si ça pouvait expliquer la réussite ou la non-réussite de notre vie amoureuse, ou est-ce que c'était majoritairement la faute de notre psychologie. Voilà, merci beaucoup et merci pour votre émission.
Marcel Hibert.
Alors malheureusement, il y a des études assez effrayantes, des études génétiques. Il y a une étude assez énorme sur de 10 000 paires de jumeaux suédois, où on a regardé finalement les gènes du récepteur de l'ocytocine porté par ces personnes, et après leur comportement dans la vie, leur stabilité dans le couple, leur capacité à former des couples. Et c'est assez sidérant parce qu'on s'est rendu compte, on trouve la trace effectivement d'une prédisposition génétique. Certaines mutations sur le gène du récepteur de l'ocytocine prédisposent, semble-t-il, à avoir de relations stables. Il y a des allèles, les allèles A, G, et donc les AA sont les plus instables, les GG sont les plus stables dans leurs relations. Voilà. Donc, on trouve cette prédisposition génétique, sachant que, malgré tout, pour un individu donné, on ne pourra pas prédire qu'il aura ce type
évidemment.
De comportement. Parce que la différence entre... Voilà, les écarts ne sont pas suffisants.
Est-ce qu'on peut répondre à la question de Karine, docteur Le Cornet-Sokol? Suite à une ablation de l'hypophyse due à une tumeur, je ne produis pas d'ocytocine. Je n'ai plus de vie amoureuse depuis 17 ans, j'en ai 47, et ma vie amicale et sociale est compliquée, mais la médecine me refuse l'ocytocine.
Alors, chez les patients qui ont été comme ça, qui ont eu des maladies très graves au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, effectivement, il peut y avoir des déficits hormonaux, mais qui sont multiples. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas reconnu d'intérêt ou de sécurité à utiliser l'ocytocine dans cette situation. Les situations où l'ocytocine a été utilisée en maladie, c'est chez des patients qui ont des problèmes de relations sociales, comme une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, ou alors dans l'autisme aussi, où il y a des études. Vous savez peut-être que dans l'autisme, l'un des problèmes principaux, ce sont les relations sociales. Et donc, pour pouvoir les aider, il y a des tests qui ont été faits, qui sont faits avec l'administration d'ocytocine par voie intranasale. Mais pour le moment, rien n'est connu pour le cas de cette jeune femme.
Et Marcel Hibert, vous consacrez dans votre livre un chapitre passionnant sur les liens entre l'autisme et l'ocytocine. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce Grand Bien Vous Fasse. Vous pouvez évidemment retrouver toute la bibliographie sur le site et sur l'appli France Inter. Demain, sommes-nous tous dotés d'un sixième sens comme les animaux?